Ça vient de Corée. Hein. Pour la Bible, il y a reconnaissance vocale, tu dis Jean 3, tu as Jean 3 tout de suite. Il ne faut même pas chercher après. Hein. C'est un peuple qui est béni. Vous savez, moi j'ai bien aimé l'intervention de Cornelis et d'Antoine, parce qu'on a un Dieu extraordinaire de créativité. Et on n'a pas le droit à la médiocrité. Dieu veut l'excellence. Et il veut l'excellence dans des temps extrêmes. Est-ce que vous croyez que nous sommes dans des temps extrêmes? Extrêmes à beaucoup d'égards. Il y a énormément de défis pour nous, pas vrai? Hein? Mais je crois que Dieu, pour des temps extrêmes, veut un peuple qui soit rendu capable de surmonter les dimensions extrêmes. Amen. Et moi, je suis pour comme il a dit, pour YouTube et tout ça. Vous savez, il y a quelque temps, il y avait quelqu'un qui était intéressé à VTV en Belgique d'enregistrer le témoignage que j'avais reçu, enfin que j'avais vécu de la vision que j'avais eue du Seigneur sur la crucifixion. Et donc, il l'a fait paraître sur son site. Et puis ensuite, il l'a mis sur YouTube au travers de le Top Chrétien. Et en quelques mois, c'est 2000 visions. Alors, si vous tapez YouTube, Barbès Michel, vous allez voir. Et c'est important. Ça, on se rend compte qu'on peut utiliser, en fin de compte, les techniques. J'ai pas l'occasion de parler à 2000 personnes. Mais là, c'est l'occasion. Et il y a des retours. Et ça, c'est important. Donc, on doit se saisir des moyens. Dieu vise l'excellence. Et moi, je crois que si Jésus revenait, il se servirait de YouTube, hein, et du net et tout ce qui s'en suit. Maintenant, il y a une question de bien. Il y a un problème? Non, je t'en prie. Il n'y a pas de mal. OK. C'est une question de discernement, de savoir où se trouve notre place. Vous savez, moi, je crois que dans notre Église, nous avons tout plein de petits-enfants, et en tant que pasteur, en tant que responsable, vous savez, mon cœur travaille parce que Dieu va nous demander des comptes de tous ces enfants. Nous sommes responsables. Et c'est important de leur préparer le meilleur. Hein, je crois qu'il y a des pasteurs qui ont dévasté leurs assemblées, qui ont stérilisé leurs membres. Mais nous sommes appelés justement à les promouvoir, à être en fin de compte des tremplins pour leur vie. Et ça, c'est important. Dieu va nous demander des choses et je crois que c'est très important que nous répondions à son désir de former. Et je voudrais m'attarder un petit peu justement sur un des passages de 1 Thessaloniciens de l'apôtre Paul au chapitre 2, du verset 1 à 13. Paul nous dit, « Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. » C'est bien de savoir ça, hein, hein? Quand déjà un prédicateur peut dire « Notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. » Il dit, « Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous savez qu'à Philippe, il a été mis en prison, hein, donc parce qu'il avait chassé un esprit de python et chez une dame. » Il dit, après avoir reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon ce que Dieu nous a jugé digne de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail, notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à chacun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste, irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Paul fait un peu le panégyrique, fait un peu le relevé de ce qui s'est passé avec ces gens-là, et il dit ses réactions, et il dit, il met en évidence ce qu'il a été au milieu de ces hommes. Et ces hommes ont reçu la parole. Ils ont reçu cette parole de l'apôtre, non pas comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu. Et il dit, et cette parole qui agit en vous. Et ça, c'est important. Nous savons ici, au travers de ce texte, que eh bien, ce que l'apôtre a fait a conduit, en fin de compte, à amener des gens à s'engager, à relever des défis. Et ça, c'est ce qui relève un petit peu de ce que nous a dit Antoine ce matin, de ce qu'a dit Cornelis aussi. C'est, en fin de compte, le chrétien est appelé à relever des défis. On se trouve bien souvent dans le christianisme avec des gens qui sont juste contents d'entendre. Mais il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit. Or, Paul parlait des progrès de certaines assemblées. Vous faites des progrès dans l'amour, dans la vérité. L'œuvre de Dieu progresse au travers de vous. Et c'est ça, il y a quelque chose de quantitatif et de qualificatif qui est démontré, qui est manifesté. Moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est... J'avais tellement, quand je me suis converti, le défi de relever des expériences avec lui. Je voulais des défis et j'étais prêt à tout. Si quelqu'un abandonne sa vie, vous savez, vous ne serez jamais en porte-à-faux. Dieu sait très bien que l'homme a besoin d'avoir des repères très clairs, très nets. Et il ne nous laisse pas sans rien quand nous abandonnons notre vie et nous nous engageons à accomplir sa volonté et à chercher sa volonté. Je le disais encore à un frère tout à l'heure, qu'est-ce que nous dit l'Épître aux Éphésiens 2? Il nous dit que nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc c'est déjà planifié, c'est le suivi déjà, toutes les provisions sont déjà données. Tout est déjà là. La ressource, elle est là. Il n'y a aucune chose qui ne soit pas envisagée par Dieu. Tout est prévu, mais uniquement dans le cadre de sa volonté. Et il dit, afin qu'on le pratique. Et je peux vous dire que moi, quand j'ai lu ces choses-là, quand je me suis converti, je dis, ouah, ça m'intéresse. Moi, j'en avais marre. J'étais pendant des dizaines d'années dans le catholicisme où on te disait, tu sais, tout ce que tu... Les mystères, eh bien, tu les connaîtras plus. Mais moi, je n'étais pas intéressé. Je voulais comprendre la vie de Dieu. Je voulais vivre une expérience, un partenariat avec Dieu. C'est ça l'important. Dieu devient notre partenaire. Et il est celui qui marche devant nous et qui nous guide et qui nous parle et qui nous dit quoi faire. Et Dieu m'a permis, avec mon épouse, en fin de compte, de lancer une entreprise qui ne se reposait que sur la foi et sur la prière. Mes amis, on parle souvent des hommes puissants, d'une œuvre puissante, mais mes amis, ce qui est puissant, en réalité, ce sont des hommes qui sont approuvés de Dieu, comme l'a dit tout à l'heure Cornelis, des hommes qui sont approuvés de Dieu et dont les réponses aux prières sont données. Dieu agrée et répond à la prière. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai vu mon Seigneur, mon Dieu, en fin de compte, exaucer nos prières à mon épouse et à moi pendant des dizaines d'années. Alors je peux vous dire, la prière, j'y crois. J'y crois parce que ça marche. Vous savez, auparavant, quand j'étais enfant, on était dans une famille très catholique et on avait droit à tous les cultes. Vous savez, la grande messe du dimanche, les vêpres et alors tout le service de Marie, tout ce que vous pouviez imaginer. Mais quand on priait, j'avais l'impression que les prières s'arrêtaient au plafond. Moi, je veux enseigner et les tout-petits voient des expériences chez nous. Il y a des guérisons qui se font en réponse à la prière des enfants. Nous sommes là pour les former. Et voyez-vous, dans cet aspect ici de ce que nous venons de lire, Paul parle de deux aspects. Il parle d'une nourrice et il parle d'un père. Nourrir. Nourrir, c'est prendre soin de ses enfants. Et mes amis, je crois qu'il est important de leur donner le meilleur. Vous savez, dernièrement, j'entendais une personne qui me relatait qu'elle avait vu un interview d'un imam qui parlait et qui disait, cet homme disait, vous savez, les chrétiens ne sont pas intéressants parce que quand on leur pose des questions, ils sont incapables d'y répondre. Waouh ! Mes amis, on est loin, hein ? On est loin d'un Étienne dans les Actes des Apôtres qui en réalité était rempli de feu, rempli de la connaissance et plus personne ne pouvait le contredire. Il parlait avec un esprit tellement fort. Il donnait des réponses logiques. Il y avait le réalisme de Dieu. Dieu est un Dieu des réalités. Et ça, moi j'aime bien ce que Paul dit. Les réalités et toutes les choses de la science et de la connaissance sont dans l'amour de Christ. Connais Christ et tu connais tout. Tous les trésors de la science. Il y a des gens qui veulent s'enfler et ils sont toujours sur le net. Je ne suis pas contre le net, hein, moi aussi j'ai un ordinateur. Mais il faut s'en servir à bon usage. Mes amis, on peut se gonfler la tête de toutes sortes de choses. Mais ce qui est important, c'est connaître Jésus. Connaître Jésus, tu vas pouvoir le porter ailleurs. Et ça change tout. Moi, je veux que nos jeunes soient capables de relever les défis. Mais pour ça, il faut les nourrir. C'est une nourrice. Il a dit, nous aurions voulu dans notre vive affection pour nous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Mes amis, moi, ici, j'invite les pasteurs et les responsables, et les papas et les mamans, parce que, en fin de compte, on est les pasteurs et les apôtres de nos enfants, hein, pas vrai? Et nous devons faire l'œuvre de pasteurs et d'apôtres et de prophètes auprès de nos enfants. Amen! Il est important de leur enseigner les bases d'une manière correcte afin que ce fondement soit puissamment établi de façon qu'il ne soit pas ébranlé. Mes amis, nous voyons de partout des branches entières du christianisme évangélique, protestant, s'en aller vers Rome. Mes amis, où sont les enseignements des réformateurs? Plein de gens rejoignent le catholicisme. Il y a une séduction incroyable qui se fait et c'est insidieux. Tout doucement, les gens y vont. Mais tous ceux qui sont enseignés de la parole de Dieu, mes amis, ils ne bronchent pas. Ils ne bronchent pas, ils veulent servir Christ et ils vont le servir. Mais il est important que nos jeunes soient fondés afin de ne pas être ébranlés. Vous savez, il dit que dans la fin des temps, beaucoup abandonneront la foi pour suivre des doctrines de démons, des esprits séducteurs. Mais si nos enfants sont fondés, mes amis, ils sont forts. Et c'est une question d'être une nourrice. De quoi enseignons-nous nos enfants? Il est important de les rendre forts. Vous savez, moi, quand j'ai des petits-enfants à présenter au Seigneur, j'insiste auprès des parents. Ils ont une merveilleuse responsabilité. C'est une merveilleuse responsabilité. C'est de les éduquer, de les corriger, de les encourager, de les consoler, d'être une mère, parce qu'ici on parle la dimension de la mère qui nourrit, être capable d'être une mère qui est en soin attentif à l'enfant. Et voyez ici, l'apôtre parle ici, vous nous étiez tellement devenus chers. Mes amis, si nos enfants dans les églises ne sont pas chers à nos cœurs, si nos propres enfants ne sont pas chers et qu'on est prêt à les laisser aller de gauche et de droite. Et vous savez, nos enfants sont terriblement exposés. Or, c'est la génération qui se lève. C'est la génération des ouvriers. Comment va-t-elle être formée? Est-ce qu'elle sera rendue capable de relever des défis? Ou est-ce qu'elle sombrera dans les défis? Mes amis, je suis maintenant dans le ministère depuis plusieurs dizaines d'années et je peux vous dire que je suis catastrophé de voir combien des gens ont eu pourtant des expériences très fortes avec le Seigneur et ont pu ensuite se détourner du Seigneur. C'est catastrophique. Je lisais le témoignage d'une personne qui a écrit justement un livre sur les derniers disciples et cette personne parlait en fin de compte d'un interview qu'elle avait eu avec un leader de leaders, c'est-à-dire un ministère qui s'occupait de près de 1000 pasteurs. Et elle posait la question, combien parmi ces pasteurs avaient une vie qui n'était pas une double vie? Donc une vie apparente et une vie par derrière. Cet homme a dû dire à sa grande honte et à son désespoir qu'en réalité, il pensait que seuls 20% des pasteurs avaient une vie qui était clean. Vous vous rendez compte? 80%! 80%! Mais mes amis, qu'est-ce qui va se passer si 80% de leaders enseignent mal des enfants, leur donnent un contre-témoignage? Paul disait, imitez-moi parce que moi j'imite Christ. Nos enfants ont besoin de voir en nous des hommes qui sommes intègres, qui n'ont pas deux vies, une à l'église et une à la maison qui est totalement différente. Ça s'appelle le levain des pharisiens, ça s'appelle l'hypocrisie. Jésus a dit, gardez-vous de ça. Gardez-vous de ça. Nous ne pouvons pas frauder, ni avec Dieu, ni avec les gens qui nous sont impartis. Nous avons une lourde responsabilité. Nous devons être sérieux. Dieu va nous redemander compte des âmes qu'il nous a confiées. Est-ce que vous êtes sensible à ça? Moi, quand je regarde mon assemblée, je dis, Seigneur, tu m'as confié des âmes. Mais guide-moi, parce que si moi je me trompe, ils vont se tromper aussi. J'ai besoin que tu me corriges, j'ai besoin que tu me guides, j'ai besoin que tu m'éclaires. Et c'est là où, mes amis, il faut vraiment s'attacher au Seigneur. Il est dit que celui qui s'attache à lui fait avec lui un seul esprit. Et comme il est dit aussi, celui qui s'attache à lui ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous savez, le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Il sait toujours qui réellement suit le Seigneur. Et vous, qui suivez-vous réellement? Qui suivez-vous? Vous savez, on parlait tout à l'heure dans la prise de café, tout ça, avec un autre frère ici, d'ailleurs, de l'Église ici, et on parlait justement de l'engagement des jeunes. Je dis oui, mais la plupart du temps, souvent les jeunes font défaut à cause de leur passion. Je me souviens, Pierre Truchel, qui était un apôtre éminent à Grenoble, pour moi c'est un père spirituel. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, je me repassais continuellement ces bandes d'enseignement parce que c'était un des seuls qui, en France, pouvait nous apporter quelque chose. Et il disait, c'était malheureux de voir combien de jeunes qui étaient dans son assemblée avaient des vocations. Il y avait, en tant que pasteur et apôtre et prophète, il connaissait ce que Dieu avait mis sur la tête de certains jeunes. Et il dit, mais à cause de leurs options, à cause de leurs ambitions, ils se mettaient sur des voies de garage et c'est terminé. Et je constate ça aussi chez moi. Je constate que des gens, parce qu'il y a des ambitions, des passions, vous savez, on ne peut pas courir deux lièvres à la fois. Et il est important que nous apprenions la sagesse à nos enfants, à prendre des décisions qui sont en accord avec l'Esprit-Saint, de manière à ne pas se trouver après sur des voies de garage et des voies de stérilité. Il est important que nos enfants soit bien nourri. Bien nourri. Et la révélation en fait partie. C'est important. Vous savez, j'en parlais dernièrement à quelques-uns, parce que le matin, on a toujours une réunion de prière, et c'est toujours un temps où on peut parler des choses spirituelles, on peut s'édifier, les uns les autres viennent avec des questionnements, puis on peut parler, ensuite on prie, et ça fait maintenant, combien, il y a plus de 15, 18 ans qu'on fait ça. Hein, c'est important. Et je disais, c'est vrai, en fin de compte, on s'aperçoit que Dieu a appelé des hommes. Regardez Moïse, à quel âge il a été pris? 80. Abraham, 80. Hein? Souvent, nous voyons cela, ou alors l'inverse. On voit des tout petits. C'est-à-dire que certains sont sortis des passions et des ambitions personnelles, et les autres n'y sont pas entrés, donc ils ne sont pas encore pollués. Donc on se doit absolument de préparer nos jeunes à savoir ce qu'ils ont à choisir. Que de voies de garage. Vous savez, l'ennemi n'a pas trop de mal à mettre de côté des ministères. Hein. Vous savez, ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Hein. Peu rentrent dans l'élection. Pierre dira, travaillez. Travaillez à votre vocation et à votre élection. Et en ça, vous ne broncherez pas. Hein. Et au jour du Seigneur, ben, vous serez debout. Mais beaucoup, en fin de compte, se laissent distraire, et c'est d'un monde. Vous savez, l'ennemi, il y a tellement de choses maintenant pour nous diluer la vie. Et beaucoup de chrétiens se trouvent dans la dimension du troisième terrain du semeur. L'invasion des convoitises. Et automatiquement, dit convoitise, dit charge. Hein? C'est, tu es préoccupé par ta charge. Tu es préoccupé parce que tu dois absolument subvenir à cette charge. Et on se trouve comme ça avec des jeunes qui zappent complètement leur vocation. Et vous savez, il y a un verset qui, dans l'Ancien Testament, m'a terrorisé un jour. Et ça, il est dit qu'ils ont poursuivi des choses de néant et ils ont été eux-mêmes néants. Vous vous rendez compte ? La vie, mes amis, c'est autre chose que du néant. C'est autre chose que, comme le disait Salomon, fin de l'Ecclésiaste, tout est vanité, rien que vanité est poursuite du vent. Mes amis, nous poursuivons des valeurs. Et mes amis, les vies que nous avons entre les mains, ce sont des valeurs. Et les âmes à conquérir, ce sont des valeurs à conquérir. Non, nous n'avons pas de temps. Nous n'avons que trop peu de temps. Le Seigneur est à la porte. Vous savez, il y a plein de qui rapporte que le Seigneur apparaît tout partout, chez les musulmans, chez les bouddhistes, tout partout. Et chaque fois, il dit à ceux qu'il apparaît, va leur dire que j'arrive bientôt. Des gens ressuscitent et le même message est donné. Il y a des anges qui apparaissent parfois sur les autoroutes et qui parlent au conducteur en disant, la trompette va sonner. Mes amis, nous n'avons qu'un court laps de temps et nous devons tout miser dans le défi qui nous est donné, et pas pour faire n'importe quoi, pour faire ce que Dieu a choisi de meilleur pour nous, les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. C'est important. Ici, il nous est dit aussi, on voit que l'apôtre parlait de d'être en charge à personne, il a travaillé de ses mains, et il nous est dit qu'il a exhorté nuit et jour, et jusque dans les pleurs. Mes amis, est-ce que vous avez déjà exhorté dans les pleurs certains? Mais il faut y arriver, parce que des tas de vies sont en danger. Des tas de vies sont en danger. Le monde, vous savez, le monde quand il vient païen est loin de connaître la volonté de Dieu. Et bien souvent, les gens sont pleins d'illusions quand ils viennent au Seigneur. Et ils pensent qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Et on comprend que Paul, en tant que pasteur, apôtre et responsable de ses âmes, passait énormément de temps. Mais il dit, ces vies lui étaient tellement chères. Il aurait voulu non seulement donner l'évangile, mais encore sa propre vie. C'est extraordinaire, ça. Ça, c'est le don de l'apôtre. C'est le don de celui qui veut se donner. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Pas vrai? Paul, comme le disait tout à l'heure Cornélis, il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Hein? si Dieu te dit de prêter sans rien avoir, de donner sans rien attendre, eh bien, il est important. Et Paul ne cherchait pas, comme il a dit, j'ai pas cherché l'honneur, j'ai pas cherché la gloire, j'ai pas cherché vos biens. Vous savez, Moïse, même au bout, quand il a eu des conflits avec les gens, il a dit, Seigneur, mais je leur ai même pas pris un âne. Mais il a tout donné. Vous savez, quand on veut être dans l'œuvre de Dieu, il faut apprendre à tout donner. Amen. Et se donner sans fin. Vous savez, il y a des gens, parfois, même mon épouse, elle me dit, mais comment tu peux faire que tu répètes toujours, répètes, comment, où est-ce que... Mais je dis, ben oui, il faut, rien à faire. Si je ne le fais pas, l'homme est oublieux. Vous savez, Pierre le disait dans son épître, hein, je vous rappelle ces choses, bien que vous les connaissiez, et je vais m'arranger pour que je vous les écrive de façon à ce que ça vous soit encore donné. Mes amis, est-ce que nous sommes de ceux qui avons des mémoires passoires pour oublier les choses de Dieu, ou bien ces choses s'impriment dans notre cœur? Mais il est important pour nos enfants d'imprimer ces choses dans leur cœur. Amen. C'est important. Et ici, il nous est parlé ici de la dimension du Père. Et ça rejoint tout à l'heure ce qu'a dit Cornelis par rapport à l'identité. Un Père communique son identité à son Fils. Amen. Vous croyez cela? C'est important. C'est important de comprendre la dimension de l'identité. Hein? Quand vous voyez que même Jésus a eu besoin de cette reconnaissance paternelle. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Et une voix, donc, dans Marc 1er, chapitre, pardon, de 9 à 11, verset 11, il dit, « Et une voix se fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Ça s'adressait à Jésus. Il y avait besoin de savoir qui était son Père, son identité. Ça lui conférait sa pleine dimension de fils de Dieu. Et c'était vu et entendu de tout le monde. Hein? Et on sait que même Jésus, quand il était sur la montagne de la Transfiguration, hein, de nouveau, il y a eu ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » C'est important. C'est une question d'identité. Mes amis, on est dans une drôle d'époque. Vous savez, là, on est en train de faire avec nos enfants quelque chose de terrible. La semaine passée, j'avais envie de me promener avec mon petit-fils, Samuel, qui, entre nous, ça passe très bien. Hein, c'est extraordinaire. Et puis, je dis, écoute, je vais le prendre, il y a une poussette. Et je prends la poussette. J'étais très frustré. Parce que c'est des poussettes cannes. L'enfant voit la route, mais toi, tu ne vois pas l'enfant. Et c'est étonnant parce que dans la semaine, je reçois des choses de Jean Calvin. Il y a un homme qui a écrit, hein, c'est Olivier Ray, enseignant à Polytechnique ainsi qu'à l'Université Paris-Sorbonne et chercheur au CNRS. Et il a écrit « Une folle solitude ». Et ça m'a interpellé parce que j'ai lu simplement, j'ai pas lu le livre, hein, mais j'ai lu simplement le thème. Et il dit « Tout au long du XXe siècle, les enfants dans leur poussette ont fait face à l'adulte qui les promenait ». Et ça, c'est ce qui se passait. Hein. Moi, quand j'ai promené mes enfants, on avait une poussette, on les voyait et on leur faisait risette, on leur parlait et l'enfant commençait à répondre. Hein. Il y avait un échange, déjà, tout petit avec l'enfant. C'est extraordinaire. Hein. Donc, jusqu'aux années 70, où un retournement massif est intervenu. Brusquement, on s'est mis à orienter les enfants vers l'avant. Pourquoi cette inversion? La question, sous ses apparences anodines, nous entraîne dans une enquête inattendue et passionnante au cœur du monde contemporain. La démocratie et la science, nos références cardinales, ont contribué conjointement au retournement, l'une et l'autre privilégiant un sujet libéré du poids du passé, des entraves traditionnelles, un sujet regardant d'emblée vers l'avant et auto-construit. Sommes-nous pour autant devenus des surhommes qui tirent leur être d'eux-mêmes et élaborent de façon autonome leurs valeurs? Ou bien sommes-nous restés des hommes qui, à récuser toutes les autorités, risquent de s'abandonner au déterminisme aveugle et au fantasme régressif que vaille, les civilisations s'efforçaient d'apprivoiser, pour Olivieret, les récits inventés depuis un demi-siècle par la science-fiction sont moins fantaisistes qu'on ne le pense. Ils nous instruisent sur un réel qui, sous des dehors rationnels, est plus que jamais gouverné par l'inconscient. Et il continue en disant « L'examen des doctrines éducatives en usage font la promotion d'un enfant délivré de la tutelle des adultes, constructeur de ses savoirs et de lui-même, nous permet de mesurer à quel point l'utopie de l'autofondation a pénétré notre monde. » C'est un déni de culture qu'on est en train de faire. Les enfants sont abandonnés entre les mains d'instructeurs dont on ne connaît pas la conscience, dont on ne connaît pas le vécu, et on pense que ces gens-là vont faire du bon travail avec nos enfants. Et nous sommes surpris de voir les enfants qui reviennent de l'école avec des théories du genre, hein, l'approche homosexuelle, lesbienne, tout ça qui est, hein, qu'on regarde comme une grande avancée sociale et tout ce qui s'ensuit. Hein, on accepte progressivement. Et si l'enfant, mes amis, n'a pas quelqu'un qui lui dit « Hey, stop !» Ce n'est pas du tout ce que je t'enseigne. Nous devons enseigner nos enfants. Nous devons enseigner nos jeunes. Ils ont droit au meilleur et nous devons être des experts dans la parole de Dieu. Vous savez, Hébreux 5 nous dit, nous parle des hommes et des femmes qui ont l'expérience de la parole de justice et qui ont un usage exercé dans le discernement et la réflexion afin de savoir séparer ce qui est mal de ce qui est bien et surtout de savoir choisir ce qui est bien. Parce que ça, c'est la véritable identité qui doit arriver. C'est la véritable formation du caractère. Beaucoup de gens savent ce qui est bien et ce qui est mal, mais ils n'ont aucune capacité de choisir le bien et de se maintenir à faire le bien. Et c'est là où nous devons intervenir. C'est donner une démonstration d'abord, et puis les former dans cette aptitude, et de leur donner des références solides, de manière à ce que l'enfant ne soit pas éprouvé. Vous savez, il nous est dit de Jésus qu'il a mangé de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache séparer ce qui est bien et ce qui est mal. Et on parle de la même chose aussi de Jean-Baptiste. Il y a eu des parents formateurs. J'ai parlé, c'est vrai, tout à l'heure, des hommes qui ont été appelés et des enfants qui ont été appelés. Mais vous pouvez regarder que la plupart des grands hommes qui sont venus, bien sûr, c'est juste une petite aparté, mais regardez par exemple, quand est-ce que Jean-Baptiste a été donné comme enfant à Élisabeth et à Zacharie, quand ils étaient avancés en âge? Quand est-ce que Dieu a donné un enfant à Anne, quand elle était déjà avancée en âge? Et ainsi de suite, à Sarah aussi. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ces femmes dépassent simplement le côté de biberonner, de materner et d'être prêtes à faire autre chose que simplement avoir un petit joujou avec un enfant. C'est mignon un enfant. C'est mignon, c'est craquant. Mais il y a des enfants comme ça. Pardon, il y a des femmes qui veulent avoir chaque fois un nouvel enfant parce que c'est beau. Mais quelque temps après, on ne se soucie plus de l'enfant. Mais il faut, de nouveau, c'est un jouet. C'est un jouet. Mais mes amis, moi je crois que si Jean-Baptiste est devenu le prophète qu'il est devenu, si Samuel est devenu l'homme, le juge en Israël, et ainsi de suite, et David et tout ce qui s'ensuit, et Isaac, eh bien, c'est parce que des femmes étaient rendus matures quant à la formation de leurs enfants. Nous devons faire très attention. Vous savez, la reconnaissance, c'est vrai, du Père est très importante pour l'identité. J'ai parlé de Jésus ici, mais si on regarde par exemple Jacob, en réalité, vivait sous les tentes, mais qui était le préféré d'Isaac? C'était Ésaü. Donc, Ésaü profitait de toute la bénédiction du Père, de toutes les mansuétudes. Pourquoi ? Parce qu'il était chasseur et qu'il faisait du gibier, qu'il faisait des bons petits plats à son Père. Et Jacob restait là pour contre. Et c'est vrai que sa mère s'occupait de lui. Mais elle a compris une chose, c'est qu'il était important que l'enfant reçoive la bénédiction paternelle. Et il y a eu cette bénédiction paternelle. Et elle ne lui a pas été retirée. Ésaü a tout loupé pour un plat de lentilles. Mais Jacob a dit, c'est tout, j'ai parlé, c'est tout, c'est fini. Il n'y a rien pour toi. Vous voyez combien l'identité et la bénédiction paternelle et la prophétie qu'un père peut apporter sur la vie de son enfant. Et un pasteur est appelé aussi, dans sa prière, à amener la dimension prophétique. Moi, il y a des moments, quand je prie pour les gens, je sais que c'est prophétique. C'est prophétique. C'est le prophétique. Et il est important, parce que ça va dessiner la carrière, la vocation de l'enfant. Amen. Moi, je sais que toute ma vocation a été chaque fois jalonnée par le prophétique, et il est hyper important. Là où il n'y a pas de révélation, le peuple s'égare et se meurt. Donc il est important que nous soyons au top de l'éducation, mais aussi du prophétique. Et là, on touche justement à cette dimension de l'Église qui se doit d'être apostolique et prophétique. Moi, depuis longtemps, le Saint-Esprit m'interpelle beaucoup sur le renouvellement des ministères apostoliques et prophétiques. Maintenant, c'est vrai que parfois, comme le dit Cornelis, on ne dit pas le mot, mais Cornelis, pour moi, excusez-moi, mais c'est un apôtre. Hein. Il y a des apôtres avec différentes nuances. Et c'est important, parce qu'il peut, en tant que père spirituel, communiquer quelque chose. C'est ça qui est important. Et regardez, quand Jacob lui-même, ensuite, après il s'est appelé Israël, quand il a prophétisé, vous savez, il ne les a pas loupés. Hein? Il ne les a pas loupés. Les 12 ont été cadrés. Hein? Sérieux, hein? Mais quelle exactitude! Il a eu le temps de comprendre l'importance de cette dimension de père. Cette dimension de père, de communiquer une dimension d'identité. C'est étonnant, hein, quand on voit même quand Joseph vient et il a eu 2 fils, et quand Jacob les a vus, ou Israël les a vus, il a dit, ça, ce sont mes fils. Et il a prophétisé au même titre que les 10 autres patriarches. Communiquer l'identité. Communiquer une dimension de structure. Mes amis, quand quelqu'un reçoit ça, il est fort. On est devant un problème, c'est beaucoup de gens sont des orphelins. On a parlé souvent... J'étais au Canada et on parlait de la génération X. Et régulièrement, on parle des générations X. Qu'est-ce que c'est que la génération X ? C'est la génération de jeunes gens, d'enfants, qui n'ont pas de père et de mère spirituels. Et on se trouve devant des églises orphelines. Et on se trouve avec des pasteurs qui n'ont pas eu cette capacité d'avoir un mentor qui les a suivis, qui les a encouragés, qui les a vraiment corrigés. Parce que c'est ça aussi un mentor. C'est pas simplement dire, ouais, tout va bien aller, hein. Va de l'avant. Va. Non, non, c'est dire, mon ami, stop, là. C'est d'avoir un droit de regard à tous les niveaux, en tant que père spirituel. De même qu'un père, c'est ce que dit ici l'apôtre. Hein. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant. Vous savez, ça c'est le rôle d'un père, de marcher, c'est la formation, c'est l'éthique, c'est la capacité de devenir un homme et une femme de caractère. C'est ce qui nous manque de plus en plus dans cette société. Combien de gens se dédisent de ce qu'ils promettent, de ce qu'ils font. On a du mal à voir des gens qui sont fermes dans leurs décisions. Hein. Ils disent quelque chose et le lendemain, c'est comme des girouettes. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Dans l'Église, on a besoin de savoir avec qui on marche. Amen. C'est important. Il y a une question de redevabilité de père spirituel. C'est vrai, je suis plus vieux qu'Antoine. Hein? Bon, j'étais 16 ans dans le ministère ailleurs, mais à partir du moment où je me suis lié à lui et à Vincent, je l'ai regardé comme un père spirituel. Et j'ai voulu, d'ailleurs, vous pouvez lui demander, j'allais avec lui dans les réunions de prière chez comment il s'appelait encore, Fernande et tout ce qui s'ensuit, et je voulais voir comment il travaillait. J'avais quelque chose à apprendre. Vous savez, c'est ça les fils spirituels, ils sont prêts à apprendre. Et un père spirituel est là pour lui apprendre. C'est une éducation. Et il est important que nous puissions être vraiment ces éducateurs. Le monde a besoin, qu'est-ce qui est dit, que la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Mais ces fils de Dieu, ce n'est pas une génération spontanée, c'est une génération que l'on produit, que l'on travaille, que l'on entoure de soins, parce qu'on les aime, parce qu'ils sont la moisson de demain, parce qu'ils sont le peuple de Dieu, parce qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu. Amen. Oh, mes amis, dites amen.
Amen.
Hein? Dieu va nous les redemander. Hein? Et il va nous donner quelque chose en retour si nous les formons bien. Tout à l'heure, hein, on a évoqué justement, Antoine a évoqué justement cette capacité de certains de venir après et dire « Ah, oh, j'ai été béni parce que t'as tenu bon. T'as fait quelque chose, eh bien moi j'ai été touché, alors que tu l'ignores. » Moi, il y a des gens maintenant que je rencontre qui sont devenus chrétiens parce qu'un jour j'ai accepté le Seigneur et j'ai tenu bon. Essayez un peu d'imaginer la jeune fille. Hein, ici, on a Jean-Denis qui vous a rapporté l'histoire de Yonggi Cho, ce qui se passe là-bas. C'est un rouleau compresseur. Satan ne saurait plus rien faire contre ça. Hein. Ça roule. Mais mes amis, ça s'est quand même au début déroulé dans les larmes. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que hein, on va en semant dans les larmes, mais on revient avec les gerbes. Avec des rires. Essayez un peu d'imaginer la petite jeune fille qui a tenu bon dans le défi de parler à ce moine bouddhiste anémique qui était tuberculeux, qui lui rionnait, qui se moquait d'elle, qu'elle en pleurait. Elle a continué, elle a insisté. Et ça a donné une église maintenant qui génère des millions de chrétiens. Alors, je ne sais pas devant Dieu la couronne qu'elle va avoir. Hein, hein? C'est fameux, hein? C'est fameux. On ne sait pas ce que notre attitude, notre intégrité, notre engagement, notre capacité de rentrer dans les défis de Dieu va générer ensuite. On ne sait pas. C'est incalculable, c'est exponentiel. Mais il y a une question d'engagement, d'intégrité, de persévérance. Vous savez, dans Romains 15, il nous est parlé qu'on a le Dieu de la persévérance et qu'on a aussi le Dieu de l'espérance. Dieu est un Dieu qui persévère. Et c'est une valeur, c'est une valeur binaire, ça. Espérance et persévérance marchent ensemble. C'est une valeur binaire. Et il dit, dans la paix, dans la joie que vous avez en Jésus-Christ, abondez en espérance par l'Esprit de Dieu. Vous êtes à court d'espérance? Le monde est à court d'espérance. Nos jeunes ne savent plus quoi faire parce qu'ils sont déboussolés. Mais Dieu a de merveilleuses espérances. Moi, quand j'ai lu ça au début de ma conversion, je dis, ça, je veux. Je veux. Et Dieu m'a permis de faire des choses. Vous savez, la foi, comme tout à l'heure le disait Cornélie, c'est une aventure en réalité. Mais si tu commences à raisonner, t'es foutu. T'es fichu. Tu rentres et comme il dit, tu ne vas pas arriver au bout des points qui font évaluer ta foi. Tu l'as et puis tu fonces dedans. Vous savez, c'est là où on a envie de faire des choses avec Dieu. Et vous seriez étonné le nombre de choses que Dieu espère que vous allez faire avec lui. C'est vos raisonnements, c'est la nature charnelle qui en vous combat les dimensions des défis. Mais il faut apprendre nos jeunes à relever des défis tout petits et de voir que ça marche, parce que Dieu marche avec ça. Mes amis, si la chose est juste, si la chose est bonne, Dieu sera toujours avec. Moi, je me souviens dans les débuts, j'ai été étonné de voir que Dieu guérissait au travers de mes mains, qu'il y avait des gens qui tombaient, j'avais aucune puissance, mais poum, patacrac. Vous savez, dans les débuts, je me souviens, il y avait un gars qui était une armoire à glace, un type assez brutal et tout ce qui s'ensuit. Il m'avait demandé de venir lui parler avec lui. Et j'y suis allé, pour prier pour lui. Puis je lui ai parlé du Seigneur. Et je lui ai dit, écoute, tu m'as appelé ici, c'est pas simplement pour te parler, tu m'as dit qu'il fallait que je prie pour toi. Il dit oui. Il dit oui, mais je vais d'abord aller à la toilette et réfléchir. Puis il revient. Il dit oui, d'accord. Bon, je dis, moi je m'en vais à la toilette maintenant. Il dit, Seigneur, bon, t'as entendu hein, tout ce que j'ai dit sur toi, hein? Maintenant, tu ne me laisses pas tomber. Hein. J'ai dit, parce que le gaillard là, il a imposé un petit peu. Hein. Et j'ai mis mes mains sur lui et j'ai vu un gars s'effondrer en larmes. Il pleurait comme un gamin. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, tu ne te rends pas compte, Michel, j'avais des douleurs plein le corps et tout est parti d'un seul coup. Mes amis, Dieu veut nous surprendre. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Vous savez, et c'est là où il faut vouloir déraciner l'impossible et apprendre nos jeunes à déraciner l'impossible. Je me souviens dans les débuts aussi du ministère, j'étais dans une réunion de famille, c'était dans une noce, et puis, non, c'est pas une noce, non, c'était un souper d'anniversaire, et ma famille est très très grande, et il y a des centaines de personnes, et puis on m'a dit, tiens, il y a un tel, hein, j'avais connaissé certaines personnes, qui était plus ou moins affilié à la maison, à la famille par mariage. Et on me dit, tiens, il y a un tel qui va venir, mais son épouse est en train de mourir à Calmette. Hein, elle a la mucoviscidose, mais on s'attend à son décès. Hein, et il va venir tout à l'heure, tu verras, il est en triste état. Puis, il y a quelque chose qui vient en moi. Puis, il faudra que tu parles à cet homme. Et comme par hasard, il y avait une place libre à côté de moi, c'est là qu'il est venu s'asseoir. Et j'ai fait connaissance avec cet homme et je lui ai parlé du Seigneur. J'ai dit, écoute, on m'a parlé de ton problème moi je pense que Dieu voudrait faire quelque chose pour ton épouse. Et il dit, est-ce que je peux aller avec toi à Calmette, ici c'est pas loin, ici à la cité universitaire. Son dossier était parti dans toute la France, jusque Marseille, tout ça, pour chercher une greffe qui était compatible parce qu'il fallait un cœur poumon, donc la mucoviscidose, il n'y a personne qui guérit de ça. Et en réalité, on ne trouvait pas et les médecins s'attendaient à ce qu'elle décède. Mais son mari était encore confiant dans les médecins. Alors, il me dit, oui, bien sûr, tu peux venir, on va aller ensemble prier pour... on n'a jamais tort de faire une prière pour les gens. On dit, oh, tu veux prier, bien prie, il n'y a pas de problème. Et donc, j'y suis allé à Calmette et puis j'ai trouvé une femme avec l'œil complètement vitreux, entubée, complètement inerte, aux portes de la mort, absolument, quasiment inconsciente. Et j'ai prié pour elle. Et c'était catastrophique parce que j'avais l'impression de prier sur un bloc de métal. Il n'y avait rien qui passait. Vous savez, quand on connaît l'onction de Dieu, on aime bien me sentir que Dieu est avec soi. Et waouh, c'est le feu qui passe. Fuego, comme disent les Argentins. Et il n'y avait rien qui passait. Et alors, j'étais très déçu parce que le Seigneur avait l'air de me dire qu'il fallait faire quelque chose pour cette femme. Et alors, Je suis rentré chez moi très désabusé, et sur le chemin, il me disait, mais tu sais, les médecins nous ont dit que dans quelques temps, quand elle sera, hein, dans quelques années, si quand elle sera guérie, elle pourra aller au sport d'hiver et tout ça, on voudrait bien aller. Je dis, mais Jean-Philippe, si tu veux, tu vas aller cet hiver au sport d'hiver. Mais non, il était fixé sur les médecins. Et j'étais à la maison quelques jours après, et je dis, Seigneur, cette femme va mourir. Saint-Esprit me dit non. Alors je dis, ça, je ne sais pas comment tu vas faire, Seigneur. Hein. Mais moi, quand je suis allé là-bas, ce n'est pas du tout la foi. Et il s'est passé, vous savez combien Dieu dirige les affaires, si vous, vous commencez à bouger. C'est là où Dieu va faire quelque chose. Et alors, quelques jours après, son mari me téléphone en pleurs. Il me dit, écoute Michel, les médecins nous ont menti, les chirurgiens nous ont menti, les patrons nous ont menti. Hein, parce qu'en réalité, son épouse était infirmière urgentiste, hein, je vous le dis. Hein. Donc elle connaissait tout le bazar. Hein, et donc elle était traitée dans son propre service et ensuite elle est partie à Calmette. Et là, en fin de compte, les deux chirurgiens qui devaient l'opérer se sont parlé l'un à l'autre, pensant qu'elle était dans un état avancé comateux, mais elle avait encore assez de ressources pour entendre. Et l'un disait à l'autre, écoute, je m'en vais en vacances, mais aussitôt qu'elle décède, téléphone-moi pour que je fasse l'autopsie. Je voudrais voir comment ça se passe dans sa poitrine. Alors évidemment, cette infirmière urgentiste, elle savait bien que son sort était statué. Et donc, elle a pu écrire sur une ardoise à son mari ce qui s'était passé, parce que ça n'avait plus parlé avec l'intubation. Et là, en pleurs, il me dit, Michel, les médecins nous ont trompés. Si tu peux venir maintenant reprier pour mon épouse là-bas, Calmette. Je dis, écoute, le Saint-Esprit est partout. Dieu est partout. On va gagner du temps, on va prier tout de suite. Et je lui dis, on va prier ensemble. Et je peux vous dire que là, ce n'était pas du tout le bloc de rocher. Il y avait une puissance du Saint-Esprit qui était sur moi, sur l'onction. Vous savez, c'est là où on a des prières ointes. Hein, Paul dit, faites par l'Esprit Saint toutes sortes de prières. Hein, l'apôtre dira encore, priant par l'Esprit Saint. Eh bien, c'est ça. Vous êtes oint et c'est tout. Automatiquement, vous êtes en train de décréter des choses et la puissance de Dieu passe parce que les gens se sont mis en accord avec Dieu. Ont mis leur espérance en Dieu, parce qu'ils ne mettent plus leurs espérances dans les hommes. Et alors, je reçois de lui, du Seigneur, dis-lui que sa femme va marcher vite. 3 jours après, une personne qui était aux portes de la mort, toute la mucoviscidose était terminée. Les kinés qui passaient tous les 20 minutes pour pomper un tube comme ça de pus, c'est affreux à voir, je l'ai vu, hein, je l'ai vu faire. C'est horrible. Eh bien, il n'y avait plus rien. Donc là, les chirurgiens, tout Calmette, étaient en train de se demander qu'est-ce qui s'était passé. Hein? Mais eux, évidemment, n'ont pas témoigné de ça. Hein? Mais moi, je le savais. Et donc après, on lui a dit, écoute, rends dans ton service à Tournai, aux urgences. Elle est venue dans son service aux urgences. Et la femme du directeur, qui était son amie et qui était aussi une kiné, elle venait, écoute, je viens te dire bonjour parce qu'en réalité, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Mes amis, il n'y a personne qui guérit de la mucoviscidose. Mais c'est une question de défi. Vous savez, quand Pierre a dû enjamber le bastingage pour marcher sur l'eau, c'était un défi. Il sortait de sa zone de sécurité. Quand on est dans la foi, on sort toujours de sa zone de sécurité. Amen. Moi, quand le Seigneur m'a dit, avec ton épouse, tu prieras tous les matins pour que ce qui sonne chez toi soit béni par moi, c'est comme ça que je vais diriger tes affaires. Je suis sorti de toute zone de sécurité. Il m'a dit, je t'interdis de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Je t'interdis de faire de la publicité. Mais au bout de 30 années, j'ai toujours eu tout ce qu'il fallait et aucun client ne me devait un franc. Aucun. Tous les comptes étaient à jour. On a pu prospérer de manière correcte pour avoir tout ce qu'il nous fallait. Mais au début, ça n'a pas été facile et le Seigneur m'a dit, tu as pris un chemin que beaucoup ne voudraient pas prendre, mais ça va être un chemin de difficulté au début. Parce que tu vas connaître la disette. Ah bon ? c'est pas le chemin merveilleux du Seigneur où tout est comme le Club Med, il n'y a plus qu'à cueillir les fruits et ça. Non, tu vas travailler, tu vas travailler, tu vas prier et à ce moment-là, d'étape en étape, les choses se sont faites et automatiquement, après c'était la prospérité, une prospérité normale. Hein, Dieu a dit qu'il donnerait avec richesse et gloire pour pourvoir à nos besoins et avoir de quoi donner aux autres. Et ça, c'est important. Et Dieu l'a fait. Mes amis, nous avons besoin de former nos jeunes pour des choses extraordinaires. Le monde a besoin de voir des choses extraordinaires. Amen. Ils sont appelés à des choses extraordinaires. Mais aussi, il y a la part de toute la correction, parce qu'un père aussi, ça doit corriger. Si on ne corrige pas, on est des mauvais parents. Amen. Dieu nous corrige. C'est vrai que ce n'est pas très agréable d'être corrigé, mais l'apôtre nous dit que après la tristesse, il y a un fruit paisible de justice. Vous savez, la correction est nécessaire. Il nous est dit dans le livre des rois que David n'a jamais corrigé ses fils. Vraisemblablement, chaque fils était dans la maison de la femme, hein, de la concubine et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y avait juste des rapports de princes et de rois et tout ce qui s'ensuit, des bons moments, mais il n'était pas là pour leur éducation et les a parpris. Vous avez vu la fin des fils de David ? David était un homme extraordinaire selon le cœur de Dieu. Mais ses enfants ont tous mal fini. Tous sans exception. Même Salomon. Dans le royaume de Dieu, on ne verra pas Salomon. Hein. Je suis désolé, hein, mais vraisemblablement, ça sera comme ça. Mes amis, ne pas reprendre nos enfants, c'est les encourager aux caprices, à toutes sortes de choses. On ne va pas former un caractère. Nous avons besoin de former des jeunes avec un caractère qui sont prêts à relever les défis. Amen. Relever les défis. Il y a des défis terribles devant nous. Si on ne les prépare pas, ils ne le feront pas. Automatiquement, il y a plein de zones qui ne seront pas visitées par Dieu. Mais là où il y a les défis, là où on a formé des caractères, là on aura des victoires. Amen. Hein? Vous savez, à chaque étape exceptionnelle, il y a toujours eu des hommes d'exception. Dieu a toujours, mais seulement il faut les former. Nous voyons que à l'époque d'Élie et d'Élisée, mes amis, c'était l'apostasie la plus complète. Si on peut comparer avec notre époque, c'était encore pire que notre époque, parce que là, il y avait des prophètes de Baal et d'Astarté hein, qui mangeaient à la cour du roi. Et Jézabel était là et elle faisait sa promotion. Tous les prophètes de l'Éternel étaient détruits. Il a fallu qu'on les cache et qu'on les nourrisse. Hein. Mais il n'y avait plus qu'Élie qui était là. Mais mes amis, quand on a un homme qui connaît Dieu, qui connaît son cœur, qui connaît l'état du peuple de Dieu. Parce que c'est ça, le désir de Dieu, c'était que Élie ramène le cœur du peuple au cœur de Dieu. Et c'est ça notre but. C'est qu'on ramène le cœur de tous ceux qui sont perdus et le cœur de nos enfants à Dieu. Sinon, on loupe. On loupe. Et c'est ce qui s'est passé. Et Dieu lui a accordé la puissance. Là aussi, on voit un domaine de prière puissante. À sa parole, à sa prière, il n'est plus tombé une goutte d'eau. À sa prière, le feu est descendu du ciel. Et à sa prière, l'eau est revenue. C'était une question de prière. Mais il était préparé pour. Il avait une éthique, il avait un caractère formé, il savait ce que Dieu voulait, il était à la bonne place, il était à la bonne heure, il était équipé pour. Et il l'a fait. Et c'est comme ça pour nous aussi. Moi, je me souviens, on a eu dans justement un congrès à Zacharie, hein, qui était venu, un Iranien. Hein, tu te souviens? Je ne sais pas si tu te souviens. Et il a dit, vous savez, il y a trois choses qui sont importantes. C'est d'être au bon endroit, à la bonne heure, et équipé pour. Si tu n'es pas au bon endroit, et pas à la bonne heure, et pas équipé, il n'y aura rien du tout. Et on a constamment des choses comme ça qui sont loupées, c'est des flops, parce que Dieu ne peut pas compter sur son peuple. Vous savez, moi j'aime bien, il y a un homme que j'aime beaucoup, c'est Smith Wigglesworth. C'est un homme extraordinaire. C'était un homme qui avait appris tellement à réagir à ce que Dieu allait lui demander. Un jour, Dieu lui dit, mets-toi à courir, sors de ta maison. Et il tourne à gauche, tourne à droite, et puis ainsi de suite, comme ça. Cours, 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 cours. Maintenant, tu sonnes là. C'était juste à temps parce qu'il y avait une personne qui allait se suicider. Mais si on n'est pas au bon endroit, à la bonne heure, et pas équipé pour, ça ne sert à rien. Vous savez, c'est un homme extraordinaire. Je vous recommande de lire ses livres, hein, parce que ça va doper votre foi. Hein. Là, ça va la booster. Vous savez, un jour, on l'avertit qu'il y a un frère qui est décédé. Alors, du coup, il dit, je vais prendre un autre frère avec et on va aller prier pour lui. Hein? Décédé, et alors il dit, vas-y, commence à prier. Et le frère commence, Seigneur, on te remercie de toute la vie que notre frère a reçue, hein, et puis toute la grâce, et maintenant, voilà, tu le reçois, tout ce qu'ils ont dit. Il dit, stop ! Je ne suis pas venu pour l'enterrer, je suis venu pour le ressusciter. Mes amis, c'est comme ça. Vous savez, c'est une question d'écoute au Saint-Esprit. Et Élie a fait des choses parce qu'il a su écouter l'Esprit de Dieu. Les vrais enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils entendent l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a des gens qui poursuivent leur passion et pensent que leur passion, c'est le Saint-Esprit. Mais ça, c'est autre chose. Hein. Et automatiquement, Smith Wigglesworth ne se trompait pas. Et chaque fois, c'était gagnant. C'était gagnant. C'est un homme qui a eu un ministère extraordinaire. Et pourtant, il n'a jamais écrit aucun livre. Hein. C'était un homme très peu instruit. Il a appris à lire et à écrire après de la trentaine et il faisait encore après ça plein de fautes. Il y a quelqu'un qui lui a dit « Vous ne vous rendez pas compte, vous avez écrit Saint-Esprit de sept façons différentes. » Il lui a dit « Vous avez compris ? C'est ça qui est important. » C'est ça qui est important. Mais il y avait des œuvres extraordinaires. Vous savez, lui, quand il y avait un mort, il commençait à le lever dehors du lit, il le mettait dans le coin de la chose, et puis dans le nom de Jésus, tu te réveilles. Hein. Bon, je ne vous dis pas de faire ça tout de suite. Hein. Il y a des prédicateurs comme ça, la foi peut arriver. Vous savez, je ne sais plus comment il s'appelle le prédicateur, mais il nous a dit qu'il y avait une personne qui avait des tumeurs sur le visage. Mais cet homme avait tellement l'habitude de la foi, de la connaissance de Dieu, qu'il a pris la tumeur, et dans le nom de Jésus, waf, et la chair était nette derrière. Mes amis, on doit s'habituer à ces choses-là, parce que essayez un peu d'imaginer ce qui se passerait dans nos contrées si on commençait à voir des choses pareilles. Il faut les chercher. Hein. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour que nous les accomplissions. Les enfants que nous avons, les jeunes que nous avons, nous devons les former dans cette perspective-là. Amen. Amen. Mes amis, c'est vrai que ça va nous demander aussi parfois d'aller, et je crois que nos jeunes vont devoir aller contre un certain christianisme qui est un peu à l'échelle de ce que Gédéon a eu comme défi. Vous savez, quand Dieu appelait Gédéon, hein, il était misérable, il se faisait plumer par les Amalécites, hein, et ils étaient là, ils devaient vite rentrer le chose pour ne pas se faire voler. Hein, et Dieu lui a appelé, vas-y, tu les battras comme un seul homme. Mais il y a dit une chose que tu dois faire, c'est que tu vas renverser l'autel de ton père et le poteau d'Akhéra. Et tu rétabliras mon autel. C'est exactement la même chose que ce que Dieu a demandé à Élie. Il a renversé l'autel qui était là et il a établi l'autel de l'Éternel. Et nous sommes appelés à établir l'autel, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est toute la foi de Christ. Nous sommes là pour restaurer la plénitude du plein évangile, parce que c'est à ça que Dieu répond. Il ne répond pas à des sentiments, pas à des choses affectueuses et tout ce qui s'en suit. Non, c'est à la vérité, à la foi. Amen. Et à l'action de l'Esprit qui est là derrière. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et c'est notre foi qui triomphe du monde. C'est dans ce que Dieu génère, dans ce que Dieu suscite. Amen. Et là, ça devient tout autre. Hein ? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous sommes appelés à faire des choses extraordinaires. Je crois que nos jeunes vont faire des choses extraordinaires. Parce que si les ténèbres augmentent, la lumière pour certains augmente. Amen. et nous ne sommes plus des ténèbres. Et nos enfants ne sont pas appelés à être des enfants des ténèbres, mais à faire une démonstration. Amen. C'est important, c'est important. Vous savez, il y avait une démonstration que le prophète Élie, quand il a parlé, il a dit, le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'Holocauste. Le bois, les pierres, la terre, et l'absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mes amis, quand le feu de Dieu tombe, les gens disent, c'est l'Éternel. Moi, je suis content, tout à l'heure, Antoine a parlé de Philippe, et c'est vrai que beaucoup ont prié. Moi, quand, parce qu'en réalité, sa sœur est dans notre église à Tournai, Cathy, et j'étais au courant de sa situation tout de suite. Et on a pris position, Roby et moi, et tous on a pris position. On a dit, non, cette chose-là ne va pas se passer, parce que les médecins ne voyaient plus qu'une seule chose, c'était la mort. La mort. Pas d'accord. Pas d'accord. Et j'ai eu l'occasion de prier au téléphone avec lui. Et vraiment, la puissance de Dieu était là. Mes amis, le peuple de Dieu qui se lève est un peuple qui se doit de prier. Tout à l'heure, notre frère va nous parler pour le temps de prière. Mais c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. Un peuple que Dieu exauce. Un peuple qui prie et qui démontre qu'il connaît son Dieu. Dans le livre de Daniel, il dit que dans la fin des temps, la connaissance augmentera. Et il dit entre autres aussi que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec détermination, avec conviction. Avec foi, c'est ça que ça veut dire. Quand tu connais le cœur de Dieu, tu sais que Dieu est avec toi. Tu n'as plus de crainte, tu peux y aller. Amen. Et nos jeunes sont appelés à faire ces choses-là. Moi, je suis étonné, je ne sais pas, pour ceux qui ont déjà lu les livres de Bill Johnson, moi, je suis jaloux de voir ce qu'ils arrivent à faire avec les jeunes. Des jeunes qui vont dans la rue, qui prient pour des gens qui sont infirmes, les gens sont relevés, des personnes, des tout petits prient pour des gens qui ont des cancers et sont guéris du cancer. La foi est libérée, l'esprit est libéré. Amen. C'est là les œuvres que Dieu attend de nous. Amen. Ça ne se passera peut-être pas comme chez Bill Johnson. Ça se passera à la mode du phare. Hein? Ça se passera à la mode française, comme ça se passera à la mode hollandaise. Mais il est important. Mes amis, moi je crois qu'il n'y aura rien de plus décevant pour nous. Mais ce qui est déjà décevant pour Dieu, c'est que Dieu a préparé des choses et qu'en fin de compte, on ne s'en soucie pas. Et qu'un jour, on vienne devant le Seigneur hein, en ayant plus ou moins enterré nos talents. Hein. On se sera donné bonne conscience pour de différents motifs. Hein. Et le Seigneur nous dira, ben écoute, j'avais préparé ça, ça et ça et ça et ça. Et toi, où t'étais par rapport à ça? Mes amis, il est important que nous préparions. Mes amis, nous sommes, Paul dira, Dieu m'a appelé pour annoncer l'Évangile et aussi, je suis établi pour la défense de l'Évangile. Il a un grand souci de protéger tout ce que l'Évangile est, toute la bonne nouvelle est. Et il enseignait les gens sur tout ce que correspond, tout ce qui correspond à la bonne nouvelle, à l'Évangile. C'est ça que ça veut dire, hein. Évangile veut dire bonne nouvelle de Dieu. Mes amis, pour beaucoup, et pour les religions qui se disent officielles, c'est uniquement leur structure et leur organisation qui, pour eux, représentent l'Évangile. Mais ils sont loin de l'Évangile. C'est une apostasie complète. Comme le disait tout à l'heure très bien Cornelis, connais Christ et parle de ce que Christ a dit. Là, tu es en plein dedans. Tu es en pleine cible. Et Dieu opérera des miracles. Mes amis, pourquoi n'y a-t-il pas plus de miracles? Tout à l'heure, c'est vrai, il a dit, c'est une question. Mais vous savez, tous les grands prédicateurs et même ceux qui ont eu des dons de guérison extraordinaires n'ont pas guéri tout le monde, hein, je peux vous le dire. Hein. Catherine Kuhlmann avait un ministère puissant, même Smith Hugelsorth, mais il ne guérissait pas tout le monde parce qu'il y a une question de foi de l'autre côté. Mais il est important de venir nous-mêmes avec cette dimension de foi, même si les autres ne sont pas dans la foi, parce que ça peut changer beaucoup de choses. Savez-vous ça? Moi, j'ai un jeune dans mon église, hein, maintenant qui est marié, et son épouse, hein, il a voulu l'épouser, tout ce qui s'ensuit, et cette personne m'avait demandé un entretien, elle n'était pas du tout chrétienne, et je savais qu'elle avait des problèmes de santé. Et alors, je lui dis à la fin, tu veux que je prie pour toi parce que je sais que tu as des problèmes de santé. Il me dit, mais non, tu ne peux pas, ça ne sert à rien, moi je ne crois pas. Je n'ai pas la foi. Je lui dis, mais toi tu n'as pas la foi, mais moi j'ai la foi et je connais. J'ai prié pour elle le soir, elle jetait ses médicaments, il n'y avait plus rien. Et ça, c'est les cadeaux royaux que Dieu peut nous donner parce que nous venons sur un terrain qui n'a pas encore été gagné. Dieu nous permet, mes amis, est-ce que Pierre et Jean, quand ils sont montés à la porte du temple, est-ce que le gars avait la foi? La grâce, mes amis, c'est un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui présente son amour avec puissance. Et on doit être prêt à faire cette démonstration de la puissance de l'amour de Dieu qui vient vers le perdu en lui montrant comment il est. Amen. Moi, ça, je crois ça. Et Dieu veut nous donner de l'efficacité. C'est pour ça qu'on ne doit pas être, parfois, c'est vrai qu'on doit parfois prêcher la foi, mais parfois Dieu nous permet de remplir des défis alors que la personne n'est pas dans la foi. Dieu veut lui donner une opportunité, et ça, il ne faut pas les louper. Il ne faut pas les louper. C'est extraordinaire, ça. Parce que ainsi la balle est dans leur camp. L'homme de la fontaine de Bethesda, qu'est-ce qu'il attendait qu'on le jette dans la flotte? Jésus lui a dit, est-ce que tu veux être guéri? Pas la foi. Hein. Jésus l'a guéri sans qu'il ait la foi. Après, il lui a dit, va, ne pêche plus parce que ta situation elle va devenir pire. Mais il n'y avait pas la foi. Plein de gens ont reçu des choses de Dieu alors qu'ils n'avaient pas la foi. Mais nous avons la foi pour eux. Nous devons avoir cette foi qui nous permette de faire des choses qui vont décider ensuite pour eux. Amen. Moi, c'est ce que je lis dans ma Bible. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose que j'ai aussi expérimenté. Et on peut tous y aller. Mes amis, vous ne risquez rien d'essayer. Tout ce qui peut arriver, c'est qu'il n'y ait rien qui se passe. Dans le pire des cas. Mais vous êtes en droit d'espérer le meilleur pour vous. Et le meilleur pour la personne. C'est là où, si on connaît le cœur de Dieu, mes amis, Jésus s'est donné pour nous. Il s'est donné pour les perdus. Il n'est pas venu pour les condamner, il n'est pas venu pour les juger, il est venu pour les sauver et les guérir. Vous savez, le terme « sauver » en hébreu, ça veut dire en même temps « sauver l'âme », mais « sauver le corps », c'est guérir tout. C'est tout guérir. Dieu a un programme de guérison totale. Amen. Et nous devons former nos jeunes. Nous devons les équiper pour ça. Amen. Amen. Voilà, mais je ne sais plus où j'en suis, moi, avec le temps ici. C'est bon? Je peux encore vous raconter des trucs. Hein. Ah, déjà dépassé. Excusez-moi, je ne vois pas bien l'heure là-bas. Oui. Bon, on a le temps hein, aujourd'hui. Hein. C'est week-end. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.